Voici donc la deuxième partie du récit du retour de Jésus dans son pays d'origine, à Nazareth, et de son intervention dans la synagogue de Nazareth. Et dans cette scène, on peut dire que, ou sur cette scène, une ombre plane. Une figure se fait remarquer par sa discrétion, même son absence. Une personne n'est pas mentionnée. C'est le chef de la synagogue. C'est le chef de synagogue, c'est sur son ordre, ou du moins sous son contrôle, que Jésus a pris la parole, que le servant, comme on l'a entendu dimanche dernier, lui a porté le rouleau des Écritures. Le servant était à peu près l'équivalent du sacristain, plus large que cela, il s'occupait effectivement du nettoyage, de l'éclairage, mais également du catéchisme, de l'instruction des enfants. Aucune mention de ce chef de la synagogue, contrairement à d'autres scènes de l'Évangile. Pourquoi ? Est-ce qu'il a été dépassé par les événements ? Est-ce que c'est un choix volontaire et symbolique de l'évangéliste pour signifier la nouveauté de Jésus ? Dans le livre des Actes des Apôtres, on a une scène assez comparable, où Paul et ses compagnons arrivent à Antioche. Et, comme on l'entend pour Jésus dans l'Évangile, aussitôt, le jour du sabbat, ils se rendent à la synagogue. Ce sont des hommes pieux, qui ont le sens de Dieu. Et le texte dit, après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire, « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Peut-être que ça ferait plaisir à certains d'entre vous. On envoie comme ça quelqu'un, vous êtes de passage, on a dit peut-être que vous avez quelque chose à dire. En l'occurrence, c'est très particulier, parce que, aussi bien dans le cas de Jésus que dans le cas de Paul, comment les qualifier ? Ils apparaissent un peu comme des rabbins de passage. On peut dire des rabbins de campagne, on va dire des rabbins de passage, des enseignants qui parcouraient villes et villages en enseignant. Et donc s'appliquer à eux ce que la loi et un texte fondamental de la loi, le livre du Deutéronome, déclare à propos des prêtres et des lévites, mais de façon plus large, si l'un d'eux séjourne dans l'une de tes villes, vient, arrive chez toi, et vient dans le lieu consacré par le Seigneur, c'est-à-dire la synagogue, eh bien, il pourra y officier comme n'importe lequel de ses frères. Et cette prescription était d'autant plus connue et remarquée qu'elle fait partie d'un passage fondamental dans l'histoire d'Israël, où Dieu promet à Moïse de faire se lever dans son peuple un prophète, il lui dit, un prophète comme toi. Il ne s'est jamais levé de prophète pareil à Moïse, mais c'est la promesse de Dieu. C'est aussi cela l'espérance messianique. Celui qu'on attendait, c'est un nouveau Moïse. Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, a dit Moïse. Et donc on attendait cela. Le chef de la synagogue était un homme qui était choisi parmi les anciens de la communauté. Un homme sage qui veillait au bon déroulement du culte. Il avait pour cela un rôle assez comparable au prêtre ou au curé de paroisse. Il vérifiait que tout soit conforme à la loi et à la tradition, fait dans la décence et en accord avec l'usage ancestral. Il y a un moment dans l'évangile de Saint-Luc où il s'en moque assez joyeusement parce que Jésus fait une guérison le jour du sabbat. Et le chef de la synagogue qui est indigné dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez vous faire guérir ces jours-là, pas le jour du sabbat. On avait déjà les problèmes des urgences à l'époque. Le chef de la synagogue a pour rôle de contrôler à la fois les lectures et les lecteurs, et il répartissait les commentaires et les explications, qui venaient donc des prêtres et des lévites, mais plus largement de ce qu'on pouvait qualifier comme des rabbins, dans le cas de... C'est le cas de Jésus à Nazareth, de Paul à Antioche. D'autres personnes que des prêtres ou des lévites pouvaient donc intervenir. Est-ce que c'est imaginable à l'Église ? À l'Église et à la messe, vous le savez, l'homélie est réservée aux prêtres et aux diacres. En tant qu'ils sont nommés représentants des évêques, successeurs des apôtres. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas à la synagogue. Nous sommes à Jérusalem. Nous sommes à Jérusalem pour célébrer le sacrifice du Christ dans le temple. sa mort et sa résurrection. Voilà ce que nous faisons à la messe. À la messe, nous ne sommes pas à Nazareth, nous ne sommes pas à Capharnaüm, ni dans quelconque autre ville d'Israël ou de la diaspora. Nous sommes à Jérusalem, pris dans son sens le plus fort, le plus symbolique, c'est-à-dire aussi bien à la scène du Jeudi Saint, au Jardin des Oliviers, à Gethsémani, pendant la nuit, au Sanhédrin, devant le grand prêtre, devant Pilate, chez Pilate, puis au Golgotha, jusqu'à évidemment, jusqu'au matin de Pâques, et au jour de la résurrection. À la messe, l'homélie est d'une certaine façon réservée au ministre ordonné, parce qu'elle est centrée sur le Christ, le ressuscité, le vivant. Celui qui a définitivement accompli cette promesse qui avait été faite à Moïse, c'est un prophète comme toi, que je leur susciterai du milieu de leurs frères, je mettrai mes paroles dans sa bouche, il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Le prophète qui avait pour rôle, traditionnellement, de rappeler le peuple à l'alliance, de lui rappeler, malgré toutes ses infidélités, de l'exhorter à la conversion, convertissez-vous, revenez à l'alliance. L'alliance est plus large que la loi. La loi, elle concerne directement les pratiquants. L'alliance, elle s'adresse à toute l'humanité, toute la famille humaine. Et c'est la raison de ces deux exemples que Jésus prend de deux prophètes, Élie et Élisée, et il prend ces exemples dans leur compassion pour des malheureux, pour des pauvres, une pauvre veuve, pour des étrangers, un général lépreux. Ce sont les traits les plus remarquables des prophètes. Et c'est ce qu'il nous est demandé de vivre dans notre propre consécration baptismale, notre configuration Christ, prêtre, prophète et roi. Pourquoi ? Parce qu'il faut du courage. Il faut du courage aux prophètes pour répondre à l'appel de Dieu. Comme il vous a fallu du courage d'une certaine façon pour venir fidèlement ce matin. Il faut de la compassion pour les prophètes, comme pour chacun de nous, pour ceux que nous rencontrons, pour les pauvres, les malheureux, de la compassion. Et puis le troisième trait marquant des prophètes, c'est leur liberté à l'égard de toutes les discussions, disputes, débats d'idées. Voyez comment, et c'est peut-être l'image à retenir de ce passage d'évangile, voyez comment Jésus passe son chemin. Voilà peut-être la grâce à demander au Seigneur. Ne pas nous perdre dans les polémiques, ne pas nous perdre dans tant de discussions, controverses inutiles. Prendre exemple sur cette vertu divine d'impassibilité face au mouvement d'humeur, voire même jusqu'à la fureur, pour nous concentrer sur l'essentiel, l'annonce de l'Évangile, la réalité même de l'amour de Dieu. Voilà l'essentiel. C'est un équilibre difficile à tenir. La compassion pour les malheureux et l'impassibilité face aux disputes inutiles. Voyez comment dans l'Église, nous gagnerions souvent à nous mettre un peu au calme. Nous mettre au calme, pouvoir prendre un peu de recul pour nous demander, mais enfin, qui est-ce que nos disputes intéressent ? Qui est-ce que nos disputes intéressent à part le diable ? Courage, compassion, calme et liberté.